Bienvenue dans mon podcast La Joie de Camille. Je te propose aujourd'hui 3 épisodes autour de mes études en art du spectacle. J'avais très envie de parler de mes études, mais pas seule. Alors je suis accompagnée de mes potes que j'ai rencontrés à la fac il y a plus de 10 ans pour en débattre, Claire, Lise, Manon et Alexis. Cet épisode est la deuxième partie. Tu peux d'abord écouter la première partie si ce n'est pas fait, qui explore notre arrivée à la fac et les cours qui nous ont le plus marqués. Dans cette deuxième partie, je propose un petit quiz où je mets au défi nos souvenirs de la licence. Ils s'en sont vraiment bien sortis et mea culpa, il y a une question où Manon a la bonne réponse et je n'avais pas entendu. Bravo Manon! Nous en étions arrivés à un moment de la soirée où nous étions très à l'aise pour parler dans le micro. Alors attention à vos oreilles, j'ai essayé d'atténuer au mieux nos rires, mais j'espère surtout que tu vas te marrer autant que nous. Est-ce que vous vous souvenez des après-midi révisions chez Claire Lise?
Ah, oh là là, les goûter révisions.
Goûter rillettes.
Ouais. Révision, pas grand-chose.
Voilà. Mais en fait, on ne révisait rien.
On a chanté.
Alors, soit on parlait, soit on écoutait de la musique, soit on faisait le con, on bouffait des rillettes, mais on ne révisait jamais.
On se battait avec les spatules.
Oh ouais. Et même qu'un jour, Julia, parce que c'était à l'époque où je vivais avec Julia, ma sœur, quand j'étais en N3, et un jour, elle était rentrée parce qu'elle était dans ses premières années d'instit, et elle est rentrée, on bouffait tous des pâtes le soir ensemble et tout, et elle dit, bon alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez révisé? Oui, oui. Parce qu'elle savait très bien qu'on foutait rien, on était censé réviser Antonin Artaud, et Alexis avait répondu, Antonin Artaud est mort à la fin de sa vie. Et là, éclat de rire général, on fait, ok, on a bien révisé les gars, c'est super.
Mais oui, on foutait rien.
On en parlait quand même 10 minutes, moi j'ai des souvenirs mais nous qui disions, c'est quoi la définition de ça? Quelqu'un qui essayait d'expliquer, quelqu'un qui répondait. Bah, moi, j'ai pas du tout noté ou compris ça, mais ça durait jamais vraiment longtemps.
Ça partait vite en cacahuète. Oui. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est un petit jeu. Un petit quiz art du spectacle. Donc, en feuilletant mes cours, j'ai noté quelques questions. Mais voilà, il n'y a rien à gagner. Si on ne sait pas, moi je donnerai les réponses. Et comme ça, ça peut montrer un peu ce qu'on avait à l'intérieur de nos cours.
C'est incroyable de faire ça. Moi, je préfère les goûteriettes où on révise rien. Et
Alors, j'ai ciblé un peu les questions. La première, c'est pour Alexis.
Ah ouais, on a chacun une question.
Alors en plus, franchement, moi-même, je ne sais pas si j'arriverai à répondre. Donc, vous ne mettez pas la pression.
Trop tard.
Alors, numéro 1, quelle question numéro 1? Quelle notion psychologique apporte les pièces de Molière?
Oh!
Notion psychologique?
Ouais, c'était écrit comme ça dans le cours. Donc je me suis dit,
allez. Ça c'est pour lui. Ouais. Ça nous arrange.
Joker. Après, non, mais... Appelle un ami, on peut?
Ouais. Qu'est-ce qu'il critique dans ses pièces Molière?
Ah!
Bah, il critique un peu.
Mais pour moi, c'est pas de la notion psychologique.
La notion psychologique,
c'est le défaut de gens, quoi.
Voilà. Exactement. Voilà.
C'est ça. Et il faut trouver le mot.
Bah, c'est le ça. Défaut des gens.
C'est pas un mot.
Ah, c'est juste vraiment, ça. Parce qu'il y a un truc quand on parle des défauts humains, genre l'avarice. La barre.
Oui, mais c'est ça. C'est ça la réponse. C'est vraiment parler. Il parle des défauts de l'homme.
Est-ce que vous pourrez répondre à ma question, s'il vous plaît?
Joker utilisé. Voilà. Ouais, alors moi, ce que j'ai noté, vraiment, c'était comme ça dans le cours. Molière écrit des comédies de caractère.
Ah,
Qui critique les défauts de l'homme. Il amplifie et dénonce sans forcer non plus la caricature, ce qui fait que le spectateur rit jaune. Car il se reconnaît dans les personnages qui sont moqués sur scène. Et dans la préface de Tartuffe, Molière dit « L'emploi de la comédie est de corriger les vices de l'homme. »
Yes.
Voilà.
Waouh.
C'est très bien dit. Moi, je pensais à Jean de La Fontaine et ses fables, mais du coup, c'est ça la réponse.
Mais voilà, en fait, c'était juste une comédie de caractère.
Yes.
Je suis pas pour ma défense, hein. Je suis pas sûr que le défaut soit une notion psychologique. J'aurais pas trouvé quoi
dire. La discussion est...
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un mot. C'est pour ça que j'ai juste dit ça.
J'avoue que c'était vraiment écrit dans le cours, la notion, qu'est-ce qu'apporte la notion psychologique de Molière. Enfin, voilà. Donc, deuxième question. En quelle année? A été créée la fondation de l'Académie royale de la danse. Donc vous pouvez déjà me donner l'époque et
de la danse.
Ouais.
18e.
Est-ce... Oui, j'aurais dit ça aussi.
C'est,
la...
c'est l'année. Non, mais si.
C'est facile.
Grosso modo, après coup. Non, mais oui.
Non, bah non, 17.
Je peux vous donner 3 choix, si vous voulez.
Ok.
Est-ce que c'est Lully?
Ou pas? Bah, c'est l'époque de Louis XIV.
C'est l'époque de Molière et de Lully, du coup? Ou pas du tout? Bah, bon, c'est 17ème alors, finalement.
Ouais.
C'est 17ème et pas 18ème.
Mais Lully, il faisait pas de chorégraphie.
Bah, non, mais en fait, enfin, la danse est quand même liée à Lully.
Bah oui,
mine de rien, dans l'histoire.
En fait, 17ème. Je voulais vous donner le choix entre 1635, 1661 ou 1669.
Alors attends, ok. Moi j'ai dit 17ème, j'étais contente que c'était ça, mais finalement il faut trouver une date précise. Tu peux redire?
Je dis 1661.
1635, 1661 ou 1669.
69 parce que j'aime bien moi.
Putain, j'ai failli la faire. Il y a des
années. J'ai regardé en 10 ans.
Basse.
En plus, c'est ça?
Non.
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 Merde. 61, non. En fait, toutes les dates ont un lien, c'est pour ça que je les ai mises.
Ah.
C'est 1661 et en fait 1669, bravo, c'est l'Académie de la Royale de la Musique.
Ah,
okay.
Qui est arrivé en pré.
Et donc 35, c'est théâtre?
À partir de 1635 apparaissent les maîtres à danser. C'est à partir de là qu'ils apparaissent. Okay. Donc Pierre Rameau était le maître à danser de Louis XIV. Pour Louis XIV, la danse est autant un art qu'un instrument politique, mettant en scène son art et son pouvoir. L'Académie royale de la danse a pour but de codifier la danse pour qu'elle reste dans des critères établis et que ce soit aussi un lieu de ressources pour recruter des danseurs pour le ballet du roi.
Okay.
Yes.
Voilà. Et ensuite, ce que je voulais vous demander, c'est quel artiste rebelle va donc rompre avec ses académismes, avec tous les codes de la danse? Est-ce que vous vous souvenez? Moi, c'est vraiment un nom qui...
d'époque ou pas?
Vague.
Genre, c'est plutôt Béjart ou non. Plutôt...
Bah, c'était plutôt...
Non, Wagner, lui, il met le noir sale.
Ouais.
Donc ça n'a rien à voir avec ça.
Non, c'est une danseuse.
Ah ouais? C'est Pina Bausch?
Non,
pas du tout.
Non, non.
C'est bien avant.
Je sais plus.
Ah ouais! Moi, quand j'ai repris le premier film.
Loïc Fouleur, un truc comme ça.
Non, c'est pas ça.
Non. L'Isodore Duncan.
Alors, je l'ai noté dans les... Elle faisait partie de ceux qui ont participé à...
au bouleversement.
À s'affranchir des codes, en fait.
Ouais.
Moi, la première que, enfin, celle que j'ai notée, c'était Isadora Duncan.
Ah, Isadora.
Ouais,
C'est un des premiers films, ouais, effectivement. Voilà. C'est ce que tu disais.
Donc, moi, j'avais dans mon cours, elle va abandonner tutu et pointe.
Ouais.
Et elle danse pieds nus avec une tunique sans sous-vêtements. Ah. Et donc, elle sort comme ça des codes de l'Académie de la danse. Et je la cite. La danse, à mon avis, a pour but d'exprimer les sentiments les plus nobles et les plus profonds de l'âme humaine. Elle doit établir dans notre vie une harmonie chaleureuse et vivante, et c'est lui faire injure que de voir seulement en elle un divertissement frivole et agréable. Et donc, effectivement, j'avais noté qu'il y avait d'autres artistes. C'était Lisadora Dalcan, Ruth Saint-Denis, Ted Chaune, etc.
Ouais. Ok.
Bon, tu comprends Pina Bausch.
Bah du coup oui, c'était bien avant. Ouais.
Bah bien
j'ai pas
avant.
Noté l'époque, mais je sais pas si c'était en mode direct, en mode je pense pas que c'était tout de suite. Faudrait que je regarde, ouais.
Mais la vidéo, justement, c'est une des premières fois où on filme de la danse, ça doit être début 20e, toute fin 19e, quoi. Un truc comme ça, non? Mais peut-être qu'elle avait fait ça avant, je sais rien.
Qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors, au lendemain de la Révolution française, voilà, vous avez une époque.
Yes.
Quel est le nouveau genre théâtral très populaire?
C'est 21e siècle, Alex.
Merci.
Quel est le quoi?
Quel est le nouveau genre théâtral très populaire? Ça, j'avoue, moi, je me souvenais pas.
Wow.
Je me souvenais même pas qu'on avait étudié.
J'en ai un en tête, mais j'ai oublié le nom. C'est pas le truc où c'est très sanglant, très...
Ah
bah si, j'avais ça aussi en tête.
Du boulevard ou un truc comme
non,
ça.
Non, pas boulevard.
Non, boulevard, c'est plus tard en plus.
Ouais,
c'est 18.
Et on reprenait les textes avec Danton, avec reprenait ce qui s'était passé pendant la Révolution, c'est ça?
Bah là, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça, d'accord, pas du tout.
Un genre... Moi, je suis nulle en genre.
Un genre qui... Tu peux redire, s'il te plaît.
Un genre...
Très populaire.
Très populaire.
Ah, juste très populaire. Ouais. Ah oui.
Le guignol.
Non, mais je peux... Franchement, moi, je me souvenais pas. C'est le mélodrame. Je savais même pas.
Ah, ouais,
même pas. Voilà. C'est
mais comment on se ferait taper sur les doigts?
Mais non, mais on mérite pas notre
licence. On a tous nos licences,
Non, ça va. En vrai, les premières questions, ça va.
Oui, ça va. Franchement, vous vous défendez bien.
J'ai rien eu.
J'ai noté, les spectateurs veulent qu'on leur parle de la vie. Ce genre va toucher un public plus large et touchera moins l'élite. C'est un public qui est toujours intéressé par la tragédie, mais qui préfère des spectacles sans référence politique et ni sociale. Le mélodramatique est là pour éclairer le spectateur et lui montrer le bon chemin à suivre. Il y a les bons, les méchants, et le dénouement est simple.
Ah oui, je me souviens.
Ah oui.
Le mélodrame accompagne la société bourgeoise à suivre l'ordre imposé par la société, comme le fait que le père soit l'autorité dans le foyer, ou que les jeunes filles restent vierges, par exemple.
C'est l'effet de l'amour, en fait, aujourd'hui.
Exactement. Et donc, selon Naudier, Charles Naudier, grâce au mélodrame, on empêche la société de basculer dans le péché. Wow. Heureusement que le théâtre est là.
Mais tellement. Mais ça, on se le dit pas assez souvent, mais c'est vrai.
Alors, cinquième question. Selon Aristote, peut-on s'identifier à un héros tragique, Claire-Lise?
Pourquoi toi? Peut-on s'identifier à un héros tragique? Non.
Non.
Non, parce que c'est un héros qui est en lien avec les dieux, déjà. En général, enfin, il a une descendance divine, machin. Et puis c'est aussi un héros. Enfin, c'est un héros. C'est pas quelqu'un de populaire déjà.
Et puis tout l'enjeu est pas de s'identifier à lui. Il faut en avoir peur de
son
destin.
Oui, la catharsis, c'est ça. Bravo. Surtout ça, c'est côté catharsis.
Bravo. C'est vraiment ça. La réponse, c'est non. Le héros tragique doit être complexe, ni entièrement bon, ni entièrement mauvais. Et à un moment, il fait une erreur. Exemple, Antigone. Elle est bonne et sympathique, mais elle désobéit. Conséquence, elle meurt.
C'est plus complexe que ça, après, Antigone, être en train de travailler dessus.
Ouais, ouais.
Non, mais oui. Mais il y a aussi ce côté des dieux tout le temps, là.
Ouais, ouais.
C'est ce qui fait la différence entre le drame et la tragédie, d'ailleurs.
Ouais,
c'est que le drame, c'est pas lié aux dieux et machin.
Ouais, ouais, ouais. Ok, ça, je me souvenais pas, tu vois, par exemple. Et il y avait aussi un exemple de personnage, Médée, qui plonge dans la folie, où personne s'identifie à elle. Et la tragédie doit susciter la crainte et la pitié. Le spectateur ne doit pas suivre les vices des personnages pour prendre le bon chemin. La tragédie enlève les mauvais sentiments pour être un citoyen modèle. Voilà.
Yes. D'où l'importance du cœur aussi dans les tragédies.
Ouais.
Qui est très en lien avec
enlevé,
les.
En fait, en plus dans les adaptations.
Ouais. Non. Les versions contemporaines carrément.
Ouais. Ça va, Alexis?
Si. Non, je réfléchis à catharsis.
Fin 19e siècle, qui révolutionne le théâtre et l'amène vers un théâtre naturaliste?
Fin 19e?
Ouais. Ça, je pense que vous avez.
Oula!
Je pensais que ce serait ça que vous aurez plus. Ouais, moi aussi, le terme naturaliste, je sais pas trop, mais. Enfin, si, en vrai.
Fin 19e, attends, mais qui?
C'est quelqu'un qui a changé beaucoup de choses dans le théâtre.
Eh ben, c'est pas Villard et compagnie.
Fin 19e,
bah non.
C'est trop tôt.
C'est trop tôt, ouais.
On l'a beaucoup étudié. Enfin, moi j'ai l'impression, dans mon souvenir, qu'on l'a beaucoup étudié.
Ah ben non. Si, Stanislavski ou quoi?
Non.
Non, pas du tout.
Parce que là, attends, je suis désolé, je crois que c'est la bière, mais fin 19e. On est fin 19e.
Ouais, oui. Fin 19e.
Donc on est en
siècle.
1800 quelque chose, 90,
oui,
quoi.
Oui,
d'accord.
Ouais.
Ouais. J'avais un œuf redoute.
Mais je sais, moi franchement, je sais pas là.
Alors, je peux vous le dire.
Attends.
Est-ce qu'on peut avoir une initiale?
Naturaliste, donc voilà.
Ah, puis le théâtre
l'esthétique change, etc. On vient sur quelque chose de plus brut.
Bah, sur la mise en scène, il va beaucoup changer.
Je sais pas si je suis bon dans les dates, mais est-ce que Cantor y est pas pour quelque chose?
C'est 20e.
Non, c'est 20e après, merde.
C'est 20e Cantor, et Stanislavski aussi, d'ailleurs.
C'est 20e.
Est-ce que Claire-Lise a cité son nom tout à l'heure?
Non, personne n'a cité encore son
nom.
Non, il n'a pas encore été cité, le petit monsieur. Nom de famille, vous voulez les initiales? Les deux initiales? Mais si je donne les deux, c'est très...
Non.
Le nom?
Non, juste, la première lettre de son nom.
Ah.
Arthaud?
Non.
Mais non, c'est beaucoup plus tard, Arthaud.
C'est un prénom, c'est un prénom. Oui. C'est un prénom.
Ah, c'est...
Antonin.
Presque.
J'en sais rien du tout, moi.
C'est son nom, enfin son nom c'est deux prénoms.
Son nom c'est deux prénoms. Comme les piles, ça me.
J'adore.
Ou comme un super groupe de musique.
Oui, tu
es commis.
Je sais pas.
Ah.
J'en ai aucune idée.
Alors c'est André-Antoine.
Ah, je m'en rappelais même plus qu'il existait.
C'est vrai. Et c'est fou parce que je pensais que c'était la question que vous alliez savoir dire.
Pas du tout.
Alors, ils n'utilisent plus le langage soutenu. Les personnages parlent normalement. Donc, il n'y a plus de grandes déclamations théâtrales. Le théâtre est pour lui une tranche de vie que le spectateur regarde au microscope. J'aime beaucoup.
Ah, oh, ça me dit un truc, ce truc. Tranche de vie qu'on regarde au microscope. Non, mais tu sais, c'est la phrase.
Me dit un truc.
Il veut parler de choses jamais traitées et apporte une modernité des sujets comme la misère, la justice sociale, la classe ouvrière exploitée, le féminisme, l'avortement et le divorce. Je trouve ça marrant que dans le cours soit écrit féminisme, parce qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Mmh. Et voilà, c'est là, c'était déjà là. Le théâtre devient une scène de débat, un théâtre engagé et militant. Le décor aussi est réaliste. Adieu l'étoile peinte. Ceux qui n'ont pas fait Ardus ne savent peut-être pas ce que représentait l'étoile peinte, mais lui, il enlève tout ça. Et la petite anecdote que j'avais totalement oubliée, c'est qu'au départ, il n'avait pas de budget. Et il utilisait les meubles de sa mère sur scène. Genre, il a emmené les meubles de sa mère pour faire le décor de son spectacle. Et du coup, ça devait carrément bousculer ce qu'on avait l'habitude de voir au théâre, en fait.
Je vous plains, sa mère.
L'authenticité.
Voilà, et je crois que j'ai...
J'ai encore deux questions.
Alors, encore deux questions. À partir de quelle décennie un texte est-il contemporain? Ça, je sais pas si ça a changé.
Alors... Normalement, il tombe dans les droits publics à partir de 70 ans.
Ouais.
Mais alors, est-ce que ça a un lien avec la contemporanéité d'un texte ou pas?
Je pense pas, non.
Contemporain, moi, je pense que c'est à partir de... En siècle, t'as dit?
Non, tu parles de décennies.
À partir de quelle décennie un texte est-il contemporain?
1950.
Non, mais j'aurais pensé ça, moi aussi.
Ah ouais?
C'est pas ça.
C'est avant?
C'est après.
70?
80.
Ouais, 70.
Mais pourquoi c'est figé? C'est toujours un peu...
Je me suis dit, est-ce que ça change pas? Mais
si, je pense.
Ouais.
Du coup, les 10 ans, ça prend 10 ans.
Je sais pas, tu vois. Peut-être que maintenant, c'est les années 80, tu vois, je sais pas. Donc, moi, j'ai noté, l'après-guerre a imposé un changement colossal dans l'écriture de théâtre. On en a parlé tout à l'heure. Les contemporains se sont affranchis de tous les anciens codes. On n'écrit plus de la même manière. Dans certaines pièces, il n'y a même parfois plus de personnages ni d'intrigues.
Théâtre de l'absurde.
Ouais. Le processus de création au plateau est différent. Par exemple, Joël Pomera écrit pendant les répétitions. Ça, je ne me souvenais pas du tout. Le texte est malléable et moi, c'est vraiment un truc que je vois assez souvent, le travail de plateau en fait, où en fait le texte n'est pas figé et où tu peux le modifier ou dire ça marche pas, ça machin. Voilà. Alors qu'avant, je pense que les textes de Molière c'était écrit et on ne bougeait plus rien et voilà. Et voilà, je voulais citer aussi d'autres contemporains. On a Bernard Marie Coltès, Sarah Kane, Heiner Müller. Et moi, j'avais travaillé sur Jon Foss.
C'est Jon Foss.
J'ai adoré.
C'est excellent.
J'avais noté que toi, tu avais travaillé sur Joël Pomera.
Ouais.
Et par contre, j'ai
sur Cendrillon.
J'avais vu un Cendrillon, ouais. C'était
magnifique. Mais ça, c'est pareil. Je l'avais noté dans ma préparation qu'on avait fait pas mal de sorties aussi. Alors, certaines
Cherbourg,
obligatoires.
Paris.
Voilà, où on avait été
le radeau aussi. On était allé voir le radeau.
Voilà. Théâtre du radeau.
C'était
à Paris.
À Paris, on avait vu quoi? Ivo Vanoff. Un Molière de Ivo Vanoff.
Oui. Génial.
La mort. Avec Fabien. Il nous avait amené à Paris.
C'était génial. Ouais, ouais. Et je me suis demandé, est-ce que c'était avec vous qu'on avait vu un fin de partie? Mais je crois pas. Je crois que c'était au lycée ou un truc comme ça.
Moi, j'ai vu un fin de partie avec Dominique.
Ouais, moi c'était au lycée.
Ouais, moi aussi.
Mais je crois que c'était pas à la fac. Ouais.
Donc je me rappelle Cendrillon de Joël Pomera qui était.
C'était
un peu chelou parce que
moi j'avais pas vu.
T'étais pas venue?
Non, j'avais pas vu Cendrillon.
Ah ouais? Non. Moi je me souviens que c'était une séance scolaire et qu'il y avait que des gamins et que ça rigolait dans tous les sens alors que c'était hyper tragique.
Il est un peu trash le Cendrillon de Pomera.
Ouais. Et moi j'étais. Super. Enfin, j'avais pas vraiment profité du spectacle. Parce que en fait, autour de nous, c'était
ça vivait trop.
Ouais. Bah non, mais franchement, le texte, il était hyper dur. Ouais.
Et ben moi, je me rappelle que c'était Pinocchio et pas Cendrillon.
Non, c'est Cendrillon.
Que quand vous avez dit Cendrillon, je vous fais carrément confiance, mais par rapport au décor, aux lumières et aux costumes, j'ai toujours cru, pardon, que c'était Pinocchio.
Bah moi, je me souviens qu'on avait vraiment l'impression que c'était des enfants sur scène.
C'est Cendrillon,
incroyable. Et non, moi je me souviens vraiment, je sais pas si je vais le dire, mais d'un moment où t'as, dans le spectacle, t'avais une phrase qui revenait souvent d'une actrice qui arrêtait pas de dire « Ma mère est morte ! Ma mère est morte !»
Oui, oui.
Et où les enfants explosaient de rire.
C'est génial, moi, les enfants.
Ça me, enfin, moi, par rapport à mon histoire, ça me, ça me tuait.
Ah, c'est ça.
Et j'étais là, mais en fait, tu vois, à cause de ça, je pouvais pas profiter du propos et tout. Et en plus, voilà, c'était magistral, c'était un Joël Pomera et on était entouré de gosses qui se poilaient. Donc voilà, c'était pas...
J'ai horreur des scolaires, moi.
Donc voilà.
Il y avait toutes les petites filles qui réalisaient leur fantasme d'hypien.
Ah, t'es horrible. Et aussi, ce qui m'avait carrément marqué, c'était Tristesse animale noire. Est-ce que...
Est-ce qu'on panta? Putain, ouais,
Je sais plus si on avait... c'était obligatoire d'aller le voir ou pas, mais...
Non, je crois
si, je crois que ça faisait partie d'un cours, parce qu'après, on avait rencontré
Guy et Véron.
Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc de ouf qu'on a eu pendant nos années Ardus, c'était
on
les rencontres.
Rencontrer les artistes.
Ouais. Et on avait eu une conférence avec David Bobet, Thomas Joly... Où ils étaient, et un autre metteur en scène de Caen, je sais plus lequel.
Mais même David Ferrand, était venu.
Thomas Fergis David.
Voilà. Même David Bobet était venu comme ça dans le, dans le studio Hamlet. De. Et il était venu dans le studio de Serge, où on était genre 15 devant lui.
D'accord. Bah, non, mais moi je trouve ça ouf parce que tu vois, genre des David Bobet et des Thomas Joly, aujourd'hui, ils ont un planning de fou et nous on avait là, on était là avec eux. On avait le droit d'avoir des petits moments comme ça. Enfin là, je pense que les Ardus actuels. Bah, ils ont peut-être d'autres metteurs en scène, remarque. Mais
c'est sûr. Et puis c'est ça qui est chouette aussi de ces formations-là, c'est que c'est aussi des artistes importants en devenir. Ce qui est le cas de David à cette époque-là et de Thomas qui sont maintenant des mecs. Enfin Thomas, je sais pas si vous savez, mais il a abandonné Angers parce qu'il va faire l'ouverture des JO artistiquement. Ouais. Il va faire des trucs de malade mental.
Mais c'est clair. Thomas. Bah et puis là il fait Starmania. Enfin moi je suis super fan et je suis trop fière. Que ce soit Thomas Joly qui mette en scène ça, parce que je suis méga fan et j'ai trop hâte de voir ça. Et oui, bah, et puis parce qu'il faut expliquer que du coup, on a suivi les mêmes études que du coup David Bobet et Thomas Joly.
Et
les mêmes profs, quoi.
Et les mêmes profs. Notamment Serge.
Voilà.
Enfin, Serge, pour certains, on parlait beaucoup.
Donc ça, c'est fou, quoi. Et maintenant, c'est des metteurs en scène de ouf.
Et voir la chance, ça, je me permets de partager la programmation avec eux.
Ouais.
Pour révéler, je me rappelais plus, c'était un souvenir Facebook de Jennifer, je crois que j'ai vu il n'y a pas longtemps.
Ah, mais moi,
où il y a sur la même page révèle avec nos noms et Thomas Joly, le quin poli par
Mais c'était le spectacle. Mais c'était le spectacle d'ouverture, ouais. Moi, c'est un, des premiers spectacles pro.
T'avais fait
J'ai bossé le montage et démontage avec eux. C'était trop bien.
Oui.
Vraiment.
C'était vraiment chouette. Il y avait vraiment beaucoup de matos à mettre.
Mais moi, c'est le seul Thomas Joly que j'ai vu, mais c'était un truc de
malade. Arlecchino !
C'était un truc de malade,
ce moment-là.
Et il y avait 30 pélos venir voir Arlecchino.
C'était horrible.
C'était scandaleux.
Parce qu'en plus, nous, nos spectacles, parce que c'était dans le cadre du concours du théâtre amateur, où en fait, on jouait tous nos spectacles qu'on avait... Voilà, les Fous de la Rampe, exactement. Et Thomas Joly, son spectacle, clôturait le festival... Et nous, nos spectacles, ils étaient blindax. Toutes nos familles, toute la fac était venue voir nos spectacles. Et Thomas Joly qui clôturait le festival, on était quatre.
Après, l'inverse, ça aurait été dur aussi.
Ça aurait été dur aussi. Mais tu vois, aujourd'hui...
On a plus besoin que lui, peut-être.
Aujourd'hui, t'as Thomas Joly qui... à la MDE de Caen, je pense que voilà, c'est blindé.
C'est ouf. Hein. Et nous, deux ans après, il faisait son Henri.
Ouais. Et là, c'était la folie.
Et Arlequin poli par l'amour tourne encore. Parce que là, cette année, il est programmé au Célestin. Et c'est un spectacle qui a bientôt 20 ans.
Et est-ce que vous savez si c'est encore les mêmes comédiens qui jouent ou pas?
Je sais pas.
Oh, ça doit tourner, je pense.
Je pense que ça doit tourner quand même. Ça fait 20 ans qu'il le tourne, le mec.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause? Pipi, boisson, machin.
Moi, ça va.
Ça va.
Moi, je voulais ajouter un truc, quand même, qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais du coup, on avait vu avec Chantal, on avait beaucoup travaillé sur la décentralisation théâtrale. Enfin, on avait beaucoup travaillé sur la décentralo avec plusieurs profs. Mais avec Chantal, on avait notamment parlé de Romain Rolland et Maurice Potcher, qui a construit au 19e siècle le premier théâtre en dehors de la capitale, en plein milieu des Vosges, théâtre en bois, magnifique, avec une ouverture incroyable sur la forêt, etc.
Moi, je vais aller faire
pipi. Et tu m'écouteras quand tu réécouteras le truc. Et du coup, moi, je me rappelle que ça m'avait vachement marqué, ce truc de théâtre du peuple, du coup, qui s'appelle Théâtre du peuple à Buisson dans les Vosges. Et à ma sortie de l'ENSAT en 2021, du coup, j'ai eu la chance de jouer sur le plateau du Théâtre du Peuple.
Oh.
Donc, un théâtre incroyable. Et j'ai trop, trop pensé à vous parce que pour moi, le Théâtre du Peuple, c'est tous nos cours avec Chantal, quoi. Mmh. Et là, d'un coup, j'étais dans ce théâtre incroyable, le premier théâtre de Décentralo, et j'ai trouvé ça trop beau. Et je voulais vous envoyer un message, et je ne l'ai même pas fait. Pour vous dire, ouais, putain. Et je me suis dit, si je leur fais, Alex, il va me dire, mais c'est quoi, c'est la Théâtre du Peuple?
Alors, non, non, franchement, non. Parce que j'ai été super sensible à cette idée-là, parce que bah, je trouve, hein, pour dire, on vient tous de la campagne, en fait, tu vois.
Ouais.
Et je me dis, enfin, moi, ce théâtre-là, quand on en avait parlé, j'avais pas oublié non plus, parce que, bah, en plus, comment nous le raconter, ça avait l'air idyllique. Et je me disais aussi que c'était, enfin, je pense qu'on a tous vécu nos premières expériences théâtrales, dans des petits théâtres, ou même peut-être des salles des fêtes, enfin, tu vois, on vient tous, enfin, toi, peut-être ouais, à la ferme, quand ton père a organisé ouais, les spectacles, mais moi, personnellement, c'était dans la salle des fêtes de mon village. Et tu vois, pour moi, le théâtre, c'est partout, et c'est pas que dans la salle. Et ça m'avait touché que voilà, on puisse penser que bah le théâtre c'est au-delà de Paris, ou le théâtre c'est pour tout le monde, et ce premier théâtre qui avait été fait voilà en dehors, pour moi il avait une importance, là je l'ai pas oublié. Et quand tu m'as dit que tu y avais joué, je me suis dit putain, c'est chouette de pouvoir commencer ta carrière de comédienne dans un, je sais pas, il y a un truc qui est fort pour moi dans ce symboliquement qui te ouais, relie aussi à l'histoire de tes parents, tu vois, et de ce qu'ils ont pu mettre en place.
Et
moi je trouve ça. Non, je ne l'ai pas oublié, celui-là.
C'est ouais, marrant. Moi, il m'a vraiment marqué, ce théâtre. Ouais. Et il est effectivement magnifique. Et on se caille effectivement les miches dedans parce que c'est que des lattes de bois les unes à côté des autres, etc. Mais en fait, c'est magnifique. Et il y a une humanité là-bas aussi qui est en lien avec le fait que c'est un théâtre aussi qui appartient à ses habitants, presque, aux habitants de Bussan. Et il y a notamment une famille qui s'appelle la famille Tuaillon qui... ils sont tous au CA et tout machin depuis des lustres et des machins. Et eux, pour le coup, on pourrait presque dire que ça fait partie des détenteurs de ce théâtre, quoi. Tellement ils ont une histoire familiale avec, parce qu'ils habitent à Bussan depuis des années. Et c'est magnifique, en fait, de voir ça aussi. Et parce qu'en plus, il y a des traditions que Maurice Potcher avait très à cœur de maintenir. C'est-à-dire que la première tradition, c'est ouvrir les portes sur le fond, sur la forêt, pendant le spectacle. Et la deuxième tradition, c'est que pendant une des deux pièces, parce qu'il y a deux pièces qui se jouent en été, c'est un théâtre particulier, puisque la saison ne se fait qu'à l'été, en bois, puisqu'il fait froid, etc. Mm. Et qui est 80% d'amateurs dans leur pièce. Mm. Et donc cette année, donc le directeur, cet été, donc en 2022, le directeur qui s'en va au Théâtre de Lorient, mais qui a été directeur du Théâtre du Peuple pendant plusieurs années, Simon de l'Étang, a monté un Hamlet avec beaucoup, donc quasiment que des amateurs, et deux personnes de la Comédie Française. Et il était assez beau, ce Hamlet.
Ouais, c'est super
intéressant. Et c'est vraiment un lieu particulier. La légende dit que les comédiens qui jouent sur ce plateau chialent forcément une fois quand ils jouent. Parce qu'il y a une espèce d'énergie de dingue. Vraiment de dingue de ce que ça raconte du théâtre. Et effectivement, moi j'ai chialé. Et tout le monde, on a tous chialé.
Wow.
Est-ce que ça t'était arrivé d'aller dans ce lieu-là dans le public?
Avant d'y jouer?
Avant d'y jouer, ouais.
Non. Jamais.
Ok.
Non, jamais. Ouais, non.
Bah, wow, c'est quand même un théâtre qui est dans le trou du cul du fin fond des Vosges.
Ouais, bah oui.
Pour y aller, tu dois arriver à Épinal ou à Nancy ou bordel et après c'est hyper compliqué. Et en plus, ce qui est très beau, c'est qu'il y a quand même une jauge de 900 places, je crois.
Ah ouais, quand même
8 ou 900 places, ouais, c'est énorme. Alors faut préparer son coussin parce que le cul a mal sur des bancs en bois. Et dans les spectateurs, t'as autant l'année dernière, il y avait Guillaume Gallienne qui est venu, Jean-Yves Ruff, il y a des gens, il y a Claire Chazal, il y a des gens en fait qui sont vachement de la hype et tout. Comme il y a les Vosgiens alentour pour qui c'est la tradition d'aller au théâtre tous les ans, etc. Et c'est magnifique, et c'est là que j'ai croisé Eric d'ailleurs.
Ouais.
Bah bien sûr.
Excellent.
Comment n'y ai-je pas pensé. Et en fait, c'est magnifique ce mélange des publics qu'on ne voit jamais ailleurs. Quand même.
Ouais, ça,
parce que magnifique. Sinon, le théâtre, c'est souvent juste élitiste. Paris réussit. C'est-à-dire que y a les vedettes qui viennent, mais il y a aussi le terroir, quoi. Mmh. Et ça, c'est génial. Voir un Hamlet, qui viennent voir un Pergunt, enfin, Ibsen, du coup. Mais c'est trop beau.
Ah, c'est génial.
Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Ouais, c'est trop bien.
Carrément. Mais d'ailleurs, c'est un truc qui moi me questionne dans mon métier. D'avoir, j'ai l'impression de tout. Enfin, on dit qu'on travaille pour le public. Moi, j'ai pas l'impression de travailler pour le public. J'ai l'impression de travailler pour la mise en scène ou pour les artistes. Et en fait, j'ai l'impression de tout le temps que c'est le même public en fait. Que c'est pas. Enfin. Ouais. T'as pas beaucoup de gens autour de moi qui va au théâtre ou... Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça reste une élite. Enfin, alors, heureusement qu'il y a les actions que font les écoles, où les classes vont venir voir du théâtre et tout ça, mais moi, j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose d'assez élitiste.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit une élite. Mais...
Ah ouais?
Ouais, je rejoindrais plutôt Manon à dire que c'est un entre-soi, tu vois. C'est si t'as cultivé le truc ou pas, tu vois. Et tu vois, des parents comme Clarisse qui sont pas, c'est pas une élite, et pourtant ils ont une culture de ça, tu vois. Il y a
ouais,
quelque chose
qu'ils ont eu l'habitude.
Ils peuvent y aller facilement, tu vois.
Ils ont l'habitude de ça. Moi, si tu le rencontres jamais.
Je pense que tu peux t'autoriser à aller au théâtre aujourd'hui, qu'il y a quand même des actions qui sont faites, il y a des choses qui sont plutôt accessibles. Après, il faut se donner le temps d'y aller, de prendre le risque de rencontrer un truc qui te plaît pas. Aujourd'hui, c'est ça qui va à l'encontre aussi, c'est qu'on veut un truc qui nous satisfasse tout de suite. Et on veut, voilà, on veut que ça nous fasse plaisir, on veut que ça nous plaise. Ouais. Et on prend plus le risque de rencontrer un spectacle qui nous plaît pas ou de, voilà,
vous
d'aller.
Vous aussi, il y a plein de gens qui vont pas forcément au théâtre parce qu'ils ont jamais été aussi.
J'ai un souvenir. Est-ce que tu te souviens de notre première sortie théâtre?
C'est-à-dire en L1?
Ouais.
Alors là, tout de suite, non, mais parce que tu me poses
la question. Là, ça me revient comme ça, où il y avait quelqu'un de notre promo, je vais pas dire qui nous avait dit « Ah, mais les filles, vous sortez au théâtre, habillez-vous, hein. » Je te jure.
Ah ouais ?
Tu te rappelles pas de ça ? Et nous, on était là, bon, genre, faut qu'on sorte
en
robe de soirée, tu vois.
Très fort. Une des premières fois, j'étais à l'opéra, où justement, c'était posé la question avec
Sybille,
que j'embrasse. Mais c'était opéra, donc du coup, on était là en mode « Est-ce que robe de soirée et tout ?» Enfin,
opéra, moi, je me souviens que notre première sortie au théâtre, quelqu'un nous a dit, mais attention les filles, il faut s'habiller.
Et alors, qu'est-ce qu'on avait fait, tu te rappelles?
On
avait
rien fait, on était allé comme ça.
D'accord,
tout le monde était
ouais.
habillé normalement.
Moi, je sais que maintenant, je le fais, parce que profession oblige.
Ah ouais?
Enfin, je veux dire, j'y vais pas en jogos, machin.
Ah ouais?
Je m'habille un minimum, mais... Enfin, genre, je peux être habillée comme ça, tu vois, mais un petit chemisier, mais je fais gaffe.
Ok.
Mon premier Wagner, je t'ai dit, allez, je fais un opéra, on y va. C'était Wagner qui passait... 9 heures d'opéra. On avait notre tarif préférentiel. Je me disais, allez, on y va. Puis ça racontait la trilogie de l'anneau. Il faut que j'y aille. Si j'y vais pas, je suis pas un vrai fan de Tolkien. Bon, bref. J'y vais et j'étais en Sarouel. Mais j'étais dans les. Comment on appelle ça? Les pigeonniers. Je voyais pas grand chose. Et à côté de moi, il y avait ce monsieur, je me rappelle, qui avait des moustaches en. Il avait des petites jumelles plaquées or.
Mais non.
Et quand je m'étais assis à côté de lui, il m'avait dévisagé de autant parce que j'étais en Sarouel j'étais plus Sarouel. Enfin bref, moi j'étais là pour le spectacle, quoi. Tu vois. Et il m'avait dévisagé comme ça. Il y avait deux mondes à moins de 50 cm, quoi.
Terre, ouais,
à qui tu l'as volé,
maman?
J'étais
la bosse là, dans la fosse.
Et je le revois encore regarder comme ça, il me regardait du coin de l'œil.
Oh mon Dieu.
Avec ses jumelles plaquées or.
Énorme.
Donc
voilà. Mais il y a un certain public quand même.
Après c'est l'opéra, donc effectivement ça.
Je suis partisane d'aller au théâtre comme on est. Et de ne pas avoir peur d'y aller, d'ouvrir la porte.
Mais ça, je suis d'accord.
Non, c'est clair.
Et c'est un grand débat d'aujourd'hui aussi, justement, où le théâtre est devenu. En tout cas, les arts sont devenus objets de consommation. Mm-hmm. Et c'est triste, quand même.
Moi, je me posais quand même la question. Je crois que c'était par rapport à David Bobet qui justement voulait vachement ouvrir, en fait, faire des spectacles ouverts et pas pour l'élite, justement, que tout le monde puisse...
Séducteur, un peu.
Ouais, que tout le monde puisse voir un spectacle et qu'il ne se sente pas, mis sur le côté, quoi. Et maintenant que je travaille dans le milieu et que j'ai travaillé, pour le CDN où il était directeur, pour moi, c'est l'élite.
Bien sûr.
Une forme d'élite qui vient, et c'est toujours les mêmes. Et dans les autres théâtres où je travaille, c'est toujours le même public, les abonnés, ceux qui ont l'habitude d'aller au théâtre. Et voilà. Et donc, je trouve que le rendez-vous est quand même encore difficile à créer, quoi.
Ouais, et en même temps, c'est pas si grave, tu vois, parce que je me dis, le théâtre, il a toujours existé en amateur, il continuera d'exister aussi, mais c'est une autre forme de rendez-vous. c'est pas forcément un théâtre qui est de moins bonne qualité. Enfin, il y a quand même des choses, des fois, qui sont très belles à voir en amateur. Mm-hmm. Et je me dis, même si, voilà, c'est, du coup, c'est un autre public, c'est un peu plus, voilà, c'est mm-hmm. peut-être plus familial, plus, ça raconte sans doute pas les mêmes choses. Le travail, l'investissement, c'est pas le même. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des rencontres qui se font, mm-hmm. voilà, dans les autres lieux plus, dans les autres lieux qui se revendiquent plus pro ou plus élitiste, oui, quoi, tu vois. Il y a quand même des belles choses qui peuvent se faire dans des petits endroits où c'est insoupçonné, et le n'importe qui peut y aller parce que je connais ma coiffeuse qui fait le théâtre, parce que je connais mon voisin qui en fait. Et enfin voilà, je pense que c'est d'autres rendez-vous qui se font.
Mais en plus, il y a des choses, il y a aussi, enfin, moi je sais qu'en sortant de l'ENSAT, j'ai fait du théâtre de rue. À Chalon, on est allé à Chalon dans la rue notamment et tout ça. Et en fait, moi, c'est un truc qui me semble très important d'apporter gratuitement des choses comme ça aux gens. Et aussi parce que ma plus grosse claque théâtrale, je l'ai prise dans la rue. Un spectacle de Garnews qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus d'ailleurs, Les Soliloques du Pauvre. C'est un texte de Yann Rictus. Et c'était d'une beauté à couper le souffle. Et ce mec m'a assise par terre. Enfin, bref. Et je trouve ça hyper important aussi de faire de la rue et de savoir... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que pour aussi faire du plateau, c'est important de savoir faire de la rue, parce que ça t'apporte pas du tout les mêmes choses. Mmh. Que les spectateurs sont aussi très exigeants. C'est-à-dire que si tu captes pas leur attention plus de 3 minutes, ils se cassent, quoi. Mmh. Ouais. Donc, c'est aussi comment interagir avec eux, comment faire et tout. Et c'est hyper intéressant de savoir qu'il y a différents lieux de théâtre, en fait. Ouais. Possible pour attraper différentes personnes, et puis pour aussi, quand t'es dans la rue, quels propos t'as envie d'aborder pour que ça parle aux gens. Et j'en avais parlé avec Garnews, que j'ai revu 10 ans après, justement, quand j'ai joué à Chalon dans la rue, et il était là avec un autre spectacle, et c'était génial. Mais qu'est-ce que tu veux aborder dans la rue qui fasse écho à ces gens qui sont là, et que ce soit pas un drame bourgeois, justement, tu vois, des choses comme ça. Et c'est hyper intéressant, c'est comme des stratégies, tu vois, pour amener les gens à débattre, à se dire « Ah ouais !» Enfin, tu vois, et je trouve ça très chouette, quoi. Ou comme certaines compagnies le font aussi, faire du théâtre de territoire. Comme Pierre Bidard, qui était aussi à la fac, avec dans la promenade sous nous et au conservatoire, qui a fait l'ENSAT. Cet été-là, enfin, en mai-juin, on a monté un Brecht, qu'on a fait voyager dans des toutes petites salles de Haute-Normandie, à Domfront, à différents endroits, enfin bref, je sais plus trop. Et où en fait, par exemple, la boulangère de Longlet-l'Abbaye, elle était jamais allée au théâtre de sa vie. Elle y allait une fois en allant voir cette compagnie, et tous les ans, elle est au rendez-vous, quoi. Et ça, je trouve ça magnifique, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Ça, je trouve ça génial.
Ouais, c'est clair.
Dans des salles des fêtes, comme ça, on joue, ça fait rire les gens. Moi, cet été, j'avais un peu peur que ça passe... que ce soit trop long, parce que c'est un Brecht, c'est difficile en plus. Enfin, c'était Maître Puntilla et son valet Mati, et en fait, il y a eu quand même du public au rendez-vous, dont la boulangère d'ailleurs, et trop bien, quoi. Le pari est gagné, même si c'est une personne, tu vois.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est chouette. C'est parce que ça existe, et faut pas l'oublier. Mais je suis d'accord que c'est encore trop rare.
Oui, les institutions, après.
Oui, dans les institutions,
ouais. Il y a des gens aussi qui n'ont pas envie de faire cette rencontre,
bien sûr. Simplement.
Ouais.
C'est la fin de cette deuxième partie d'épisode. Dans le prochain épisode, nous terminons le quiz et la dernière question sera une parfaite transition pour enfin parler de nos cours de pratique théâtrale et de développer à propos de ce fameux Serge qui est cité toutes les 2 minutes dans la première partie, celle avant le quiz. La dernière partie sera mise en ligne la semaine prochaine. Merci pour ton écoute et n'hésite pas à me rejoindre sur l'Instagram La Joie de Camille si tu veux me faire part de tes impressions. À bientôt!